reçu vraiment comme titre le peuple de Dieu et le secours de l'Éternel. Alors ça tombe bien cette semaine, où on a vu le secours de l'Éternel dans nos sujets de prière hein, du mercredi, donc on est réjouis. Donc là, on est dans 2 Rois, deuxième livre des Rois, chapitre 3. On va lire le chapitre en entier, mais on va le faire en 3 morceaux. On va commencer par les versets 1 à 8. Donc, 2 Rois, chapitre 3, et on peut afficher les versets 1 à 8. Il n'écoute pas. Bon, je vais commencer à les lire. Ah, vous savez, les histoires de la Bible, elles sont fantastiques. Absolument fantastiques. Moi, je ne m'en lasse pas. Pourtant, j'ai eu droit depuis ma plus petite enfance. J'ai encore, c'est marrant, quand je lis la Bible, encore aujourd'hui, j'ai les flanellographes dans les yeux. J'en vois les petites images que les monitrices mettaient sur la flanelle. Là. C'était... Quand je lis la Bible, je lis les histoires, je revois les images dans ma tête. Et j'ai toujours aimé ces histoires de la Bible. Et puis, encore plus maintenant, parce que je creuse un peu. Alors, 2 Rois 3, et pour l'instant, je fais 1 à 8. Juste les 8 premiers versets. Et c'est un tel bonheur de lire la Bible. Pour moi, c'est un plaisir. Il y avait même une période où j'avais pas mal de choses à faire avec les enfants et tout. Et j'essayais de me restreindre parce que sinon, j'aurais passé la matinée. Je raffole de la parole de Dieu. Parce qu'elle s'applique tellement à notre vie quotidienne. Tellement, tellement. Alors, on lit des histoires d'il y a 3000 ans. Puis on se dit, misère, mais... On vit la même chose. Bien sûr, les choses ont changé, les cultures ont changé, ça, mais la Bible transcende tout ça. Hein. Et c'est formidable de lire la Bible en se disant qu'est-ce qu'elle a à me dire aujourd'hui. Hein, donc, je vous encourage à le faire, même si parfois il y a des passages qui vous semblent difficiles. Si c'est trop difficile, ben passez au suivant, c'est pas grave. Il y a tellement de choses. Ne vous privez pas des richesses de la parole de Dieu parce qu'il y a un passage que vous ne comprenez pas. Un jour ou l'autre, le Seigneur vous le montrera. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de dire aujourd'hui, qu'est-ce que la parole de Dieu me dit. Et même si vous pensez être dans une situation désespérée, j'écoutais cette semaine, je ne sais pas s'il y en a qui écoutent Don Moen, j'écoutais ce chant, Dieu tracera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et on a parfois des situations dans nos vies où il n'y a pas de chemin. On marche dans la jungle. On a attaqué de tous les côtés. Mais Dieu trace un chemin. Dieu trace un chemin. C'est lui qui fait refleurir le désert. C'est lui qui fait des choses extraordinaires. Hein. Donc, vous découragez pas. Et attaquez-vous au texte. Lisez-le, relisez-le, méditez-le. Et vous allez voir, on trouve des tas de choses. D'ailleurs, l'apôtre Paul le disait à Timothée. Hein, ces choses nous ont été écrites pour nous servir d'exemple. Eh oui. Et on peut trouver, et vous allez voir, même dans le texte d'aujourd'hui, on trouve beaucoup d'exemples. Alors, on y va. Joram, le fils d'Akab, devint roi d'Israël à Samarie la 18e année du règne de Josaphat sur Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, mais pas autant que son père et sa mère. Intéressant. Il démolit le monument de Baal que son père avait érigé, mais il s'attacha au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et ne s'en détourna pas. Mécha, le roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue toute l'armée d'Israël. Puis il se mit en marche et fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi pour combattre Moab ?» Josaphat répondit, « Je vais monter avec toi, toi et moi, ton peuple et le mien, tes chevaux et les miens. » Il n'y aura aucune différence. Il ajouta, « Par quel chemin allons-nous monter ?» Joram dit, « Par le désert d'Édom. » C'était peut-être pas forcément une bonne idée. Les rois d'Israël, de Juda et d'Édom, donc partirent, et après 7 jours de marche, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes de somme qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Quel malheur ! L'Éternel nous a appelés, les 3 rois que nous sommes, pour nous livrer entre les mains des Moabites. » Mais Josaphat demanda, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter ?» L'un des serviteurs du roi d'Israël, était bien informé lui, hein, répondit, « Il y a ici Élisée, le fils de Shaphat, qui était assistant d'Élie. » ou serviteur d'Élie, suivant les traductions. Josaphat dit « La parole de l'Éternel est avec lui. » Et le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent alors vers Élisée. Bon. Alors, un petit rappel pour pouvoir suivre. Le pays d'Israël, vous vous souvenez, c'est séparé en deux depuis un petit peu après Salomon. Royaume d'Israël au nord, avec Joram comme roi, là, en ce moment. Ensuite, royaume de Juda au sud, avec Josaphat comme roi. Alors, tantôt, les deux rois sont amis, tantôt, ils sont hostiles. Là, vous voyez, ils sont amis. Israël au nord est partagé entre le culte à l'Éternel et puis le culte aux dieux païens. Baal, Astarté, etc. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Akab, vous vous en souvenez, Élie a eu des tas de problèmes avec ce roi, il est mort, et Joram, son fils, est un moins mauvais roi que Akab, parce qu'il a démoli certains monuments à Baal, que Akab avait érigé, mais le peuple continue à adorer le veau d'or à Bethel, c'est pas normal. Tout ça pourquoi ? Parce qu'ils veulent pas descendre à Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est en Juda. Bon, Josaphat, lui, roi d'Israël, est un bon roi. Il adorait l'Éternel et la Bible le définit comme c'est un roi qui ne rechercha pas les Baals. On lit ça dans 1 Roi 22, 43. Alors Moab maintenant, les Moabites qui se révoltent là, c'est quoi ? Alors c'est un peuple qui est tout au sud, au sud-est de la mer Morte. Ce sont des descendants de Lot, imaginez, pour ceux qui se rappellent de l'histoire d'Abraham et Lot. Ce sont des descendants de Lot, mais bon, ils ont souvent été hostiles à Israël. Et autrefois, c'était un roi de Moab qui, voyant les Israélites en Canaan, avait envoyé, une histoire que vous connaissez certainement, Balaam, pour maudire le peuple d'Israël. Pas sympa du tout. Vous voyez, les Moabites, c'était pas très clair. Les femmes Moabites et Madianites, d'ailleurs, avaient réussi à entraîner les Israélites dans la débauche et l'idolâtrie sur les conseils de ce fameux Balaam. Donc, vous voyez, bon, de tous les côtés, les Moabites, c'était pas génial. Et sous le roi Akab, les Moabites devaient payer une sorte d'impôt à Israël. Alors, bon, là, on dit 100 000 agneaux, 100 000 béliers. La plupart des commentateurs pensent que c'est plutôt la laine de 100 000 agneaux et 100 000 béliers. Vous savez, parfois, la traduction, c'est pas facile. Et je pense pas qu'ils aient transporté 100 000 agneaux et 100 000 béliers tous les ans. Par contre, la laine de 100 000 agneaux et 100 000 béliers, probablement. Donc, c'était quand même un gros impôt. Hein. Ils devaient en avoir marre de payer cet impôt. Mais après la mort d'Akab, ils se révoltent. Ils profitent qu'Akab est mort. Akab, apparemment, c'était un conquérant. Là, il se dit, il est plus là. Allez, on se révolte. Et le fils d'Akab, Joram, il demande l'aide de son voisin. Tiens, là, ils sont amis. Et Josaphat, qui est un bon roi, qui suit l'Éternel, voyez comme il est sympa, il dit, bah voilà, je vais monter avec toi, toi et mon peuple, ton peuple et le mien, tes chevaux et les miens, on fera pas de différence, donc une armée vraiment unie. Et puis, il demande par où on va passer. C'était important quand même, fallait descendre jusqu'au sud. Il y avait 7 jours de marche. Et je pense qu'il n'a pas eu une bonne idée, Joram, en disant par le désert d'Édom. Mais s'il passe par le désert d'Édom, bah, il faut mieux que le roi d'Édom soit ami avec eux. Bon, c'est logique. Donc voilà les trois rois qui s'unissent pour aller combattre Moab. Donc voilà, vous avez le contexte. Et comme ça, le roi d'Édom a accepté qu'on traverse son territoire. Alors, on a lu aussi 9 à 12 tout à l'heure. Donc on va continuer. Le problème, c'est que le chemin était long pour cette triple armée. Hein. Israël, Juda, Édom, ça faisait beaucoup. Alors, on n'a pas le nombre, mais ça devait faire pas mal de monde. Et ils avaient certainement amené de l'eau, mais ils pensaient aussi trouver de l'eau en route, quand même. En général, les armées faisaient la guerre au printemps. D'ailleurs, vous savez pourquoi on appelait le mois de mars le mois de mars ? Parce que Mars était le dieu de la guerre chez les Romains. Donc souvent, c'était au printemps, et souvent au mois de mars, que les armées se mettaient en route, tout au moins, dans l'hémisphère nord. Bon, alors, ils devaient compter sur les rivières, parce qu'au mois de mars, mars-avril, printemps, il y a encore de l'eau. Hein. Ou les puits qu'ils trouveraient en route, mais ils en ont peut-être trouvé, mais pas assez, et peut-être même pas du tout dans certains endroits. Alors, c'est que parce qu'ils savaient que Moïse et le peuple d'Israël avait rencontré ce problème-là, le manque d'eau, plusieurs fois après avoir quitté l'Égypte. Mais curieusement, le roi d'Israël, Joram, ils ne proposent pas du tout de faire appel à l'Éternel. Pourtant, ils avaient un passé quand même. Il réagit comme un païen. Et qu'est-ce qu'il dit ? Quel malheur ! C'est ce qu'il semble. La malédiction est là. Quel malheur ! L'Éternel a appelé les trois rois que nous sommes pour les livrer entre les mains des Moabites. Ça y est, la malédiction est sur nous. Alors là, ça c'est très païen ça. Peut-être que notre Dieu n'est pas assez puissant et le Dieu de Moab, c'est ça qui était derrière sa tête. Et puis voilà, là on n'a pas d'eau. Quel malheur ! Pas une seconde, il dit, mais Moïse, dans le désert, Dieu lui a donné de l'eau. Une fois, il a frappé le rocher, une fois, il a dû lui parler, une autre fois. Bon. Une fois, Dieu leur a montré tout un lieu plein de sources. C'était Élim, je crois, le lieu plein de sources. Eh ben non, aucun souvenir de ça. Dommage. Parce que le passé nous sert pour nous encourager quand on est devant une difficulté. Et la parole de Dieu, nous, eux-mêmes, les auraient bien aidés. Alors, pourquoi il est comme ça, Joram ? Eh bien, parce qu'il écoute son ressenti, sa peur naturelle. Et c'est logique, c'est humain. Sans eau, ben, on va s'affaiblir, l'armée va se décourager, et puis c'est fini, Moab va nous sauter dessus, et il ne fera qu'une bouchée de notre armée. Hein, une armée des hommes qui ne boivent pas, des animaux qui manquent d'eau, bon, ben, c'est fini. Hein. L'armée de Moab nous vaincra sans difficulté. Son âme va le décourager. Ça nous arrive jamais, nous. On écoute toujours l'Esprit de Dieu qui parle à notre esprit. On n'écoute pas notre âme, c'est évident. Ça ne marchera pas, je ne vais pas y arriver. Il y a une malédiction sur ma vie. Combien de fois on écoute notre âme ? C'est une catastrophe. Je me souviens de John Wimber qui disait « Ce qui est moche, c'est que les chrétiens, ils écoutent plus facilement Satan que Dieu. » Quand Satan va leur dire « Tu ne vas pas y arriver. »« Ah ouais, c'est vrai. » Quand Dieu leur dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Bon. Hein, on est... Il faut être conscient de ça. Hein. On est terrible pour ça. Et c'est son âme qui va le décourager. Mais ce qui est plus grave, et ça, c'est pas tolérable, il accuse l'Éternel. Non, mais quand même. Il accuse l'Éternel de les avoir appelés à la défaite. Je relis, dans ma version, c'est l'Éternel a appelé les trois rois que nous sommes pour les livrer aux mains des Moabites. Ah ben c'est bon ça. Non seulement il est découragé, non seulement il a peur, et c'est logique, mais c'est, bien sûr c'est la faute de l'Éternel. Ben voyons, de qui voulez-vous que ce soit la faute ? Est-ce que parfois on n'est pas comme ça aussi ? Seigneur, pourquoi tu permets ça ? Alors on est un peu plus poli quand même, hein. On ne va pas trop l'accuser, mais on lui demande pourquoi tu permets ça ? Pourquoi tu permets que je passe par le désert ? Pourquoi tu permets que ceci, cela ? Ben parce qu'on est humain et c'est notre âme qui parle. Et on a tendance à l'écouter. Son esprit, qui devrait, c'est celui qui doit établir la relation avec Dieu, ne lui vient pas du tout en aide parce qu'il ne l'a pas cultivé. Hein. Son esprit, il l'a toujours laissé de côté. Il adore les Baals, il adore un peu l'Éternel et puis c'est bon. Et là, ben, son esprit ne peut pas l'aider. Il n'écoute que son âme. Il est habitué aux dieux étrangers et à leurs caprices, c'est ça le problème. Parce que les dieux étrangers, quand on regarde un peu l'histoire, c'était des dieux, ben on ne savait jamais trop ce qu'ils allaient faire. Peut-être qu'ils allaient être gentils, mais peut-être qu'ils allaient être en colère. Alors il fallait sacrifier. Quitte à sacrifier un enfant, on va le voir tout à l'heure, sous leur nez, il leur a fait. Mais c'est terrible cette idée d'avoir un dieu inconstant, imprévisible. Moi, j'ai souffert d'avoir un chien imprévisible et c'est pas évident. Et puis, on a dû l'euthanasier parce qu'il était dangereux. C'est terrible. L'imprévisibilité. C'est stressant. Vous savez pas si le Dieu, il va vous aider ou s'il va vous retomber dessus. Et parfois, en tant que chrétien, est-ce qu'on n'a pas un petit peu cette idée ? C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Voir qui il est. Parce que là, ça ressort bien dans les textes bibliques. Parce que si on pense que Dieu... Ah oui, vous savez, ça c'est connu, ça. Même les non-chrétiens le citent. Les voies de Dieu sont impénétrables. Donc comme ça, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Peut-être il va être gentil, peut-être il ne va pas. Peut-être il va me livrer à l'ennemi ou peut-être il va me secourir. Lisons la parole de Dieu pour voir qui est Dieu. Hein. Donc lui, il accuse l'Éternel, il ne s'embête pas, il y va direct. C'est l'Éternel qui... Bon, voilà. Il est habitué aux dieux étrangers, à leurs caprices, aux caprices des idoles.
Et il a pensé que ça y est, Dieu l'avait décidé de l'abandonner au profit d'un peuple qui probablement a des dieux plus puissants. C'était ça la croyance à l'époque. Si ça n'allait pas, ça veut dire que les dieux du peuple en face, ben, ils étaient plus puissants. Alors il y avait aussi une autre croyance qui était très très forte à l'époque, c'est que Dieu n'est puissant que sur le territoire où tu habites. Donc tu sors du territoire d'Israël, c'était sa pensée, hein, ce brave Joram, tu te retrouves sur un territoire où il y a d'autres dieux qui sont chez eux, donc ils vont être plus puissants. Alors c'était une croyance authentique, hein, historiquement c'était comme ça. Et du coup, évidemment, il perd la foi, le peu qu'il avait. L'Éternel va nous livrer aux Moabites. Ça, on est tranquille. Alors, au fait, il faudrait peut-être se poser la question, quand on entend ça, est-ce que Joram a demandé le conseil de Dieu avant de s'associer aux autres rois? Vous vous souvenez, David? Moi, David, il m'a toujours... Il y a un passage chez David qui m'a frappé quand j'étais jeune, je me souviens. Il se retrouve dans un certain lieu, deux fois de suite. Même armée, mêmes ennemis, même champ de bataille. Dieu, la première fois, lui avait dit, tu feras ceci, cela. Donc la deuxième fois, il se retrouve dans la même situation. Bon, honnêtement, moi, ce que j'aurais fait, la dernière fois, le Seigneur m'a dit de faire comme ça, on va faire comme ça. Non, David, il n'était pas fou. Il connaissait son Dieu. Dieu, ce n'est pas un moule à gaufre. À chaque fois, il donne des conseils qui conviennent à la situation. Et ce n'est pas tout le temps les mêmes. Même si les situations ont l'air semblables, ce n'est pas tout le temps la même chose. Donc, il préfère, grâce à sa relation avec Dieu, David va dire à Dieu, et cette fois-ci, on fait quoi? Et effectivement, Dieu a une stratégie complètement différente. Donc, c'est important de consulter Dieu. Même, oh oui, mais j'ai déjà vécu ça. Ah oui? Oui, mais bon. Il faut mieux quand même demander au Seigneur. David avait ça. Alors Joram, il ne faut pas lui demander ça. Il n'avait même pas demandé l'avis de Dieu. Le texte ne nous rapporte rien sur l'idée de consulter. Josaphat, le roi de Juda, oui, mais pas lui. Hein. Problème, c'est qu'il ne consulte pas Dieu, il prend la décision. Mais la guerre, c'est quand même une affaire sérieuse, de vie ou de mort. Et puis de liberté pour le pays, s'il est asservi à un autre pays, hein. David, lui, il y pensait, il consultait l'Éternel. Joram, même s'il est moins idolâtre que son père, il est parti en guerre sans consulter l'Éternel. Il va s'associer avec un roi fidèle à Dieu, Josaphat, et avec un roi païen, le roi d'Édom. Pas de problème. Rien, il ne demande rien, il ne respecte pas la loi, il fait à son idée. Par contre, quand ça ne va plus, c'est la faute de l'Éternel. Et combien de gens aujourd'hui? Combien de gens aujourd'hui, quand ça ne va pas, ils n'ont pas cru en Dieu, ça ne les intéresse pas, ils se sont même moqués de Dieu. Ils ont chanté des chansons contre Dieu, ils ont levé le poing contre Dieu à l'occasion, même et en prétendant que Dieu n'existe pas, tant qu'à faire. Et malgré tout ça, quand ça ne va pas, c'est la faute de Dieu. D'un seul coup, Dieu existe et c'est de sa faute. Il n'a jamais existé dans leur vie, mais là, d'un seul coup, il existe parce qu'il faut que ce soit le bouc émissaire. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Attention, nous chrétiens, parfois, attention. Alors, comment est-ce qu'il ose accuser l'Éternel? C'est lui qui est le plus concerné dans cette guerre, c'est lui qui a décidé des alliances, c'est lui qui décide du trajet, parce que Josaphat, il est sympa, il dit par où on va passer, par le désert d'Édom. D'où bien passer par un désert, ça risquait de manquer d'eau, hein. Il ne connaît pas bien l'Éternel Dieu d'Israël. Et il en a une image extrêmement négative. Alors combien de gens aujourd'hui organisent leur vie sans prier, sans consulter le Seigneur, et quand un problème surgit, on accuse Dieu. Et là, le problème, c'est que parfois même nous, en tant que chrétiens, plein de bonne volonté, mais ça nous arrive de prendre des décisions sans consulter le Seigneur. Oh, c'est pas forcément important, il n'y a pas de risque, ou bien... C'est urgent, ou bien il y a des pressions pour qu'on prenne une décision. Et puis, ben, on ne consulte pas le Seigneur. Ou pas assez. Donc, vous savez, je ne me moquerai pas trop de Joram, parce que nous aussi, ça nous arrive. Combien de chrétiens ont prié et consulté le Seigneur, mais quand les choses vont mal, ils réagissent selon la nature humaine. Ça, c'est la deuxième possibilité. On ne consulte pas, puis après, on dit c'est la faute de l'Éternel. Et puis, parfois, on prie, on consulte le Seigneur, mais ça va mal quand même. On aime dire, ça ne vaut pas le coup, là. Ben, c'est vrai. Honnêtement, ça vous est jamais arrivé d'avoir prié, d'avoir consulté le Seigneur pour quelque chose, et puis ça va mal. Ah, ben, oui. Alors, est-ce qu'on va dire c'est la faute du Seigneur? Parce que là, je l'ai consulté. Hein. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait, hein. C'est notre nature humaine, hein, c'est notre chair. La Bible parle de chair. J'aime pas trop ce mot-là parce qu'il ne veut pas dire grand-chose pour nous à notre époque. C'est notre nature humaine profonde. Et on accuse Dieu, même nous chrétiens parfois. Pourquoi tu as permis ça? Au lieu de le rechercher dans la prière. Seigneur, je t'ai consulté, je t'ai demandé, j'ai fait ce que j'ai pu, ça ne va pas. Montre-moi, mets la lumière sur mon sentier. Ta parole est la lumière sur mon sentier. Voilà, donc vous voyez, on a... Même nous, chrétiens, hein, on a quand même des soucis par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'on a une nature humaine. On a beau être chrétien, on a beau être serviteur de Dieu, on a beau, même peut-être, j'ai connu des gens qui prophétisaient avec beaucoup d'exactitude, mais ils ont quand même leur nature humaine. Elle ne nous lâche pas, hein, en attendant de se transformer en robot. Alors, Josaphat, roi de Juda, il est beaucoup plus sérieux. Lui, il a le bon réflexe. N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel? Ah, voilà quelqu'un qui réfléchit. Là, on est dans une situation tragique. Alors, lui, il n'accuse pas Dieu, je vous fais remarquer. Et ça, c'est quand même super. Il n'accuse pas Dieu. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas le consulter? Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, on va le consulter. Et ça, ça devrait être notre réflexe. Quand on a prié, on a consulté Dieu, les choses ne vont pas bien. Hein, moi, je ne vous cache pas la vérité, c'est des choses qui arrivent. Quel est notre réflexe? Parce que ça devrait être celui de Josaphat. Est-ce qu'on ne peut pas consulter l'Éternel? Alors attention, hein. Depuis que Jésus est venu, il n'y a plus ces prophètes de l'Ancien Testament qui avaient du 100% exact. Les prophètes qu'on a aujourd'hui ont un certain taux d'exactitude, mais rien à voir avec les prophètes de l'Ancien Testament. La preuve, c'est que c'est l'apôtre Paul qui dit d'éprouver les prophéties. Et que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et il faut être prudent par rapport aux prophéties. Et je sais qu'on vit parfois une époque en ce moment où ça va sur Internet, des prophéties qui vont un peu dans tous les sens. On les met à l'épreuve de la parole de Dieu, premièrement. Ensuite, on regarde aussi ce que disent d'autres prophètes qui aiment le Seigneur. Et on fait la part des choses. Retenez ce qui est bon, dit la Bible. Ça veut dire qu'il y a du mauvais. Parce que les prophètes actuels... n'ont pas ce taux d'exactitude qu'ils avaient dans l'Ancien Testament. Jésus est venu depuis. Et c'est Jésus qui est 100% parfait. 100% sa parole est bonne. Mais les prophètes aujourd'hui, ils ont certaines choses qui sont exactes, d'autres non. Retenez ce qui est bon. Donc il faut être sérieux par rapport aux prophéties et ne pas se laisser entraîner à tout vent de doctrine. C'est Jésus qui est l'intermédiaire et le seul entre Dieu et les hommes. C'est lui qu'on prie. C'est de lui qu'on lit la vie dans les évangiles. C'est la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? C'est pas qu'est-ce que le prophète, machin chose, va me dire. Même s'il dit des choses exactes. Nous avons eu la chance dans l'église d'avoir deux personnes qui avaient des prophéties souvent très très exactes. Mais il n'empêche que, voilà, l'esprit des prophètes soumis aux prophètes, et Dieu nous dit, retenez ce qui est bon. Puis on laisse tomber le reste. Ce qui n'est pas le cas pour la parole de Dieu, où on retient tout. Donc c'est important de se rappeler que depuis que Jésus est venu, nous n'avons plus ces prophètes avec 100% d'exactitude. Le serviteur de Joram, lui, connaissait bien Élisée. Et je me suis demandé s'il ne faisait pas partie de ces 7000 hommes dont Dieu avait parlé à Élie, qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Parce qu'il a eu le réflexe tout de suite, lui. Hein. C'était marrant. Et tout de suite, dit, oh, il y a ici. Il sait qui est Élisée. Il sait où il habite. Il sait qu'il est le fils de Shaphat et qu'il était le serviteur d'Élie. Il sait beaucoup de choses, lui. Hein. Je suppose qu'il adorait le Seigneur. Et il faisait partie de ces 7000 hommes, certainement, dont parlait le Seigneur. Et Josaphat confirme aussitôt, c'est là qu'on voit que Josaphat était du même esprit, il dit « La parole de l'Éternel est avec lui. » Donc on peut faire confiance à ce prophète. La parole de l'Éternel est avec lui. Ah, parce qu'à l'époque aussi, il y avait des faux prophètes. Hein. Il y avait les prophètes de Baal, il y avait les prophètes d'Astarté, il y avait des gens qui se prétendaient prophètes et qui ne l'étaient pas. Donc ça n'a pas changé. Mais là, Josaphat confirme, la parole de l'Éternel est avec lui. Donc, les trois rois vont voir Élisée. Et ça, c'est une très bonne démarche. Et vous savez, parfois, on peut faire comme le roi d'Israël et oublier de consulter, oublier de... Et puis se dire, bah, maintenant c'est foutu, j'ai raté, j'aurais pas dû, puis on abandonne. Non, 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 non. Là, le roi de Juda, il a raison. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas consulter? Et, ah oui, il y a quelqu'un qui peut nous aider. C'est Élisée, il habite pas loin, on va y aller. Et tous les trois, ils y vont. Et ça, je trouve ça formidable. C'est une démarche respectueuse. Vous vous souvenez, Acab, il demandait qu'on aille chercher Élisée, et puis c'était pas pour lui faire du bien. Élie, et c'était pas pour lui faire du bien. Là, eux, ils y vont. Ils sont dans le respect. Et ça, il faut quand même le remarquer. Et puis, ils se disent pas, bah, de toute façon, c'est foutu, c'est trop tard, on est en train de mourir de soif, on va se faire avoir, ça vaut même plus le coup d'aller consulter. Non, ça vaut toujours la peine de consulter l'Éternel. Même si on est au fond du trou. Et je me souviens, quand j'étais adjoint au maire, j'avais le maire du village d'à côté, je connaissais ses parents, c'était des chrétiens engagés, et il avait eu des menaces de mort très sérieuses. Très, très sérieuses. Ça arrive même dans les villages. Hein. C'était il y a une vingtaine d'années. Et je me suis dit, là, quand même, pas. Je savais qu'il ne marchait plus avec le Seigneur, lui, mais il était allé à l'école du dimanche et tout. Et donc... il quittait la mairie, puis il était venu en visite dans notre mairie. Je suis allée le voir et je lui dis, vous savez, vous pouvez prier pour ça, parce que c'est sérieux ces menaces de mort. Adressez-vous au Seigneur, vous connaissez le Seigneur, vous êtes allé à l'école du dimanche. Il ne savait pas que je savais, mais là il l'a su. Et j'ai vraiment insisté pour qu'il prie. Et il était tout triste, il baissait la tête. Et il me dit, oh, vous savez... je suis trop loin de Dieu maintenant pour prier. Je dis, quoi? Mais personne n'est trop loin de Dieu pour prier. Vous voyez, le diable, il est malin, il vous éloigne de Dieu, puis après, une fois que vous êtes bien dans la purée, eh ben, de toute façon, au point où tu en es, c'est même plus la peine de prier. Et voilà. Et donc, j'apprécie que ces trois rois, ils sont dans la purée, ils sont dans les problèmes, mais ils ont quand même le courage de dire, allez, je vais aller consulter le prophète, la parole du Seigneur est sur lui. Ça, c'est formidable. Donc, même si vous avez fait des bêtises, si vous sentez que, oh là là, c'est pas une situation récupérable, etc. Oh, oh! Allez! Allez consulter le Seigneur. Rapprochez-vous du Seigneur. Priez! Il y a toujours de l'espoir. Il n'est jamais trop tard. Alors, on va lire maintenant les versets 13 à 20. Et voilà Élisée. Oh, oh! Alors là, on ne s'attendait pas à celle-là. Élisée dit au roi d'Israël, « Que me veux-tu ?» D'autres traductions disent, qu'y a-t-il entre toi et moi? Faut dire ça. Que veux-tu? Va trouver les prophètes de ton père et ceux de ta mère. Oh, oh. Le roi d'Israël lui dit, non. Bon, c'est déjà bien. Car c'est l'Éternel qui a appelé les trois rois que nous sommes pour les livrer entre les mains des Moabites. Voilà, il est gonflé quand même. Élisée dit, l'Éternel, le maître de l'univers dont je suis le serviteur, est vivant. Sans l'estime que j'ai pour Josaphat, le roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Maintenant, apportez-moi un harpiste. Un musicien, c'était clairement un harpiste. Tandis que le harpiste jouait, la main de l'Éternel reposa sur Élie. Et il annonça, voici ce que dit l'Éternel, creusez des fosses. Alors je sais qu'il y a des traductions qui disent des tranchées, peu importe. Creusez des fosses dans cette vallée. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Vous n'apercevrez pas de vent et vous ne verrez pas de pluie. On va dire, donc là, ça commence mal. Hein. Il demande de l'eau. Et vous ne verrez pas de pluie. Mais cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Oui, parce qu'ils avaient le frigo avec eux. Hein. Tous les troupeaaux, c'était la nourriture pour l'armée. Mais cela ne suffit pas aux yeux de l'Éternel. Il livrera les Moabites entre vos mains. Vous détruirez leurs villes fortifiées, leurs villes importantes, abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes leurs sources d'eau, vous gâterez tous leurs bons champs en y jetant des pierres. C'était la guerre, évidemment, c'est pas très joli. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, l'eau arriva par le chemin des Dômes et le pays fut rempli d'eau. Ah, alors là, il y a des choses quand même. Aïe, aïe, aïe. Visiblement, je pense qu'Élie avait dû raconter à son serviteur Élisée
toutes ces misères avec Akab et Jézabel, les adorateurs de Baal et d'Astarté. Akab avait été vraiment méchant, vraiment méchant. Et puis il avait tourné sa veste en plus. Il était revenu à Dieu, puis après il a retourné sa veste, à tel point qu'Élie avait dû fuir, vous vous souvenez? Et puis Élisée, vous allez me dire, alors ça quand même, pour un prophète de l'Éternel, tu dis qu'il était 100%, mais... Et donc, il n'est pas aimable, hein? Il ne reçoit pas aimablement le roi d'Israël. Ils viennent avec respect, là, tous les trois. Que me veux-tu? Va trouver les prophètes de ton père. Ouhou! Il y a une certaine irritation, là, hein, qu'on ne peut pas nier. Mais ce n'est pas une question personnelle. C'est bien les prophètes de ton père et ceux de ta mère. Il n'en a pas après la personne. Mais il ne supporte pas. Il ne supporte pas. Et ça, on le comprend, il ne supporte pas le mélange entre la foi en l'Éternel et la croyance au culte des idoles. Il ne supporte pas ce mélange. Comment oser mélanger? Et vous savez, ça se voit juste après. Quand le roi d'Israël lui dit « Non, non, autrement dit, je ne vais pas chercher les prophètes de mes parents », il aurait pu dire « J'y vais pas parce que c'est une horreur, parce que c'est interdit par la loi, parce que Moïse nous a dit que... » Enfin, moi, j'aurais trouvé plein d'arguments, là. Hein. Non, son argument, non, je ne vais pas consulter les prophètes, parce que c'est l'Éternel qui a appelé ces trois rois que nous sommes pour les livrer. Quoi? Donc, je viens voir un prophète de l'Éternel, parce que c'est la faute de l'Éternel si j'en suis là où j'en suis. Oh, bah tiens, comprenez que là, ça n'a pas bien disposé Élisée, encore moins qu'au début. Quoi? Quoi, tu vas pas consulter les prophètes de Baal et d'Astarté, ceux de tes parents, là? Parce que c'est la faute de l'Éternel. Et puis il maintient, hein, c'est la deuxième fois qu'il le dit. Et vous savez, dans la Bible, quand on a une répétition comme ça, deux fois, trois fois, c'est que c'est vraiment, vraiment vrai. C'est vraiment ce qu'il pense. C'est une façon d'insister. Hein. Aujourd'hui, on souligne, on mettrait un coup de stabilo. Non, mais là, alors là, là Élisée, il est vraiment en colère. Hein. Et regardez comment il répond. Là, c'est passionnant, sa réponse. Il éprouve une sainte colère. Et il va réaffirmer des choses importantes qui, à son avis, là, avec cette phrase-là, sont catastrophiques. La façon dont lui a répondu le roi d'Israël, c'est catastrophique. Et il va reprendre point par point dans sa réponse. L'Éternel, le maître de l'univers. Écoute, roi d'Israël, l'Éternel, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une idole. C'est le roi, le créateur de l'univers, le maître. Moi, dans ma traduction, j'aime bien maître de l'univers, même si ça fait penser à certains jeux de nos enfants quand ils étaient petits. Ils en avaient pas, ils n'avaient pas le droit. Mais, maître de l'univers, ça vous dit quelque chose? Il y avait des dessins animés, tout ça. Le vrai maître de l'univers, c'est l'Éternel. Maître de l'univers, ça veut dire créateur. Il n'est pas comme l'homme, il n'est pas comme les dieux et les idoles, il n'est pas comme les dieux de Moab, il n'est pas comme les dieux de tes parents, là. C'est le maître de l'univers, c'est le créateur. Et puis, il dit, dont je suis le serviteur. Ah oui, je ne suis pas simplement le serviteur d'Élie, qui versait l'eau sur les mains d'Élie, suivant les traductions. Je suis plus qu'un prophète lambda, comme ça, dans le pays. Où... Rien à voir avec les prophètes d'Arsaté et de Baal. Je suis le prophète du Dieu créateur de l'univers. Donc déjà, Dieu n'est pas n'importe qui. Arrêtez de lui mettre la faute sur le dos. Et puis, il est le maître. Et moi, je suis son serviteur. Et puis après, il dit, dont je suis le serviteur, il est vivant. Vivant, ça veut dire qu'il entend, il comprend, il agit, il veille. J'ai essayé de regrouper un peu toutes les choses. Il aime. Et il ne refuse pas son secours à ceux qui se confient en lui. Il est vivant. Ah. Alors, cette façon de parler, c'est l'Éternel qui a appelé ses trois rois pour les livrer à Moab, ça le met dans une colère. Tu t'adresses au Créateur. Moi, je suis son serviteur. Et il est vivant. En juste une phrase, il dit beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas si c'est l'auteur qui a résumé le discours d'Élisée, ou si Élisée pouvait... dire autant de choses en une seule phrase. Dieu n'est pas un homme imprévisible, vengeur. Il n'est pas comme les dieux païens qui peuvent se retourner contre toi le jour où ils ne sont pas contents. Et il faut apaiser leur colère avec des sacrifices. Et il n'est pas moins fort que les dieux de Moab. C'était ça le message.
C'est le maître. On ne l'accuse pas comme ça. Et surtout un roi d'Israël. Comment il ose répéter « Ah non, je ne vais pas voir les prophètes de mes parents. » Non pas parce qu'ils sont mauvais, non, non. Juste parce que cette fois, c'est l'Éternel qui nous veut du mal. Bof, bof. Joram est vraiment persuadé que Dieu veut leur défaite. Il le répète deux fois, c'est pour ça. Il pense que Dieu est contre eux. Ça y est, tout de suite. Et qu'il est contre cette bataille. Il est pour les Moabites. Il a changé de côté. Élisée précise que... Ah oui, ça j'aime bien. S'il n'avait pas de l'estime pour le roi Josaphat, il ne regarderait même pas Joram. Vous allez me dire quand même, hein, dis donc, pour un prophète de l'Éternel, il y va fort. Hein. Je te regarderai même pas. Rien à voir avec toi. Ah, qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière, dit la Bible. Il était vraiment dans les ténèbres, ce pauvre Joram. Et le problème, je me suis toujours demandé pourquoi il appelle un harpiste. Pourquoi il appelle un musicien? Ben, la musique adoucit les mœurs. Et Élisée, il est en colère. Et vous savez que la colère dans la Bible, elle n'est pas interdite. À condition que on ne reste pas sur votre colère. C'était une sainte colère. Moi, le prophète de l'Éternel, je ne peux pas imaginer qu'on passe un peu l'Éternel, un peu les Baals, et puis on ne consulte pas parce que... Waouh ! Il était en colère. Et il était sa colère naturelle, humaine. Vous savez que la Bible dit que c'était des hommes de la même nature que nous, ça nous rassure. Il ne pouvait pas écouter la parole de l'Éternel dans une colère noire comme ça. Il était furieux. Quand même, recevoir le roi d'Israël, je ne te regarderai même pas. Si ce n'était parce que le roi de Juda est là et que lui, c'est un homme qui respecte le Seigneur. Il est en colère. Il ne supporte pas qu'on accuse l'Éternel. Comment on ose? Mais qui est Dieu? Attention aussi à la façon dont nous, chrétiens, on parle de Dieu. Hein, parfois, j'ai l'impression que c'est un petit Dieu qu'on met dans la poche. Ouf, c'est embêtant. Hein. Attention comment on parle de Dieu. Et même si on ne comprend pas ses voix, il faut mieux dire « Seigneur, je ne te comprends pas » plutôt que de dire des choses comme ce roi d'Israël. Il ne reconnaît pas l'Éternel pour qui il est. Et ça le met en colère, Élisée. Il a besoin de se calmer et il va demander un musicien. Ah, alors là, je me suis dit, mais ça, est-ce que c'est pas un petit peu humain? Est-ce que c'est pas... Enfin, je sais pas, ça me semble pas très spirituel d'amener un musicien. Puis je me suis rappelé que Saül, le roi Saül, quand il était attaqué par l'ennemi, il demandait à un musicien de venir jouer. Ah, c'est vrai. Et puis, j'ai fait un peu de recherche et j'ai vu que les musiciens à l'époque, et, ils chantaient surtout des cantiques. Alors, les cantiques de Moïse, là, ils avaient les cantiques de David, là, puisqu'on est dans les rois. David, c'était 150 ou 200 ans avant, donc il les avait. Saül avait donc été calmé par la musique de David. Les psaumes de David étaient disponibles et les musiciens de l'époque jouaient beaucoup ces psaumes qui étaient chantés. Hein. Nous, on les lit, malheureusement, on a perdu la musique, mais c'était des chants. Et avec des messages très forts, hein. Des messages très forts hein, dans les psaumes. Alors, il est en colère, il est probablement gêné aussi par la présence du roi païen, du roi d'Édom. Il sent le besoin de cette musique et de ces paroles qui vont l'aider à rentrer dans la communion avec Dieu. Parce qu'avec une pareille colère, c'était difficile. Et j'ai juste relevé, à propos de la harpe, psaume 33, 43, 76... Célébrer l'Éternel avec la harpe. Dans le psaume 92, 4, annoncer sa bonté au son de la harpe. 98, 5, avec la harpe, chanter des cantiques. Donc c'était dans la culture, la harpe pour accompagner les cantiques. Donc notre pauvre Élisée avait besoin de laisser de côté ses réactions charnelles, on dirait, en vocabulaire de Canaan, c'est-à-dire naturelles, humaines, logiques, pour pouvoir entendre la voix de Dieu dans son cœur. Ah, il était comme nous, hein. Si on va vers Dieu avec un cœur rempli de colère, difficile d'entendre sa voix. Et là, du coup, c'était amusant parce que quand j'en suis arrivée là de la préparation de mon message, j'avais un petit peu du mal à continuer la préparation. Et du coup, je me suis dit, oh ben tiens ma fille, Qu'est-ce que tu es en train d'écrire? On va se l'appliquer. Je vais aller chercher Don Moen sur Internet. Et puis, j'ai mis ces chants. Et je dois vous dire que c'était vrai, c'était beaucoup plus facile de préparer le message avec des chants de louange derrière. Bon, je ne sais pas si c'est à chaque fois, mais en tout cas ce jour-là, visiblement, j'en avais besoin. Et j'en suis venue à l'importance de la louange. Alors aujourd'hui, on est gâtés. On est gâtés, on peut écouter des chants de louange partout. Dans la voiture, partout, 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 et à tout moment. Et je pense que c'est une grâce de Dieu, parce que Dieu sait qu'on vit une époque difficile. Tu sais qu'on vit une époque où on est attaqué par tout un tas de médias, tout un tas de trucs de tous les côtés, de soucis, etc. Et la possibilité d'écouter des chants de louange, elle nous est offerte. C'est vraiment un cadeau. J'en ai profité, je suis très contente. Alors, pourquoi? Pourquoi la louange? Parce que la louange nous aide à nous détacher de nos préoccupations. Pour écouter le Seigneur parler à nos cœurs. C'est exactement l'exemple d'Élisée. Il a demandé à un musicien qui a visiblement chanté des psaumes. Ça lui a permis de décompresser et de préparer son cœur à écouter la parole de Dieu. Bah oui, bah on n'a pas trop changé de ce côté-là en 3000 ans. Hein. Alors bien sûr, au culte du dimanche, la louange nous permet d'exprimer notre adoration au Seigneur, tous ensemble, c'est très important, de préparer nos cœurs à écouter sa parole. Et puis, ça facilite une coupure avec nos soucis, avec nos préoccupations. Et j'ai réfléchi à ça, du coup. La louange nous aide à diminuer l'influence de notre chair, de notre nature, de nos soucis, notre colère, justifiée ou non, de notre désir de vengeance, parfois, on a subi des injustices. Mais aussi, ça nous aide à diminuer l'influence de la tristesse et du découragement. Vous savez, quand on est au 36e dessous, ça nous aide à lever les yeux vers l'Éternel. Et vous savez, on dit toujours quand on monte sur une montagne, « Oh là là, on est tellement petit. Oh là là, regarde toutes ces petites maisons là tout en bas, ou quand on est en avion. Hein. » On ne voit pas les choses pareilles. Et la louange, c'est un peu ça. C'est un avion qui nous monte au-dessus des problèmes, et on est plus proche du Seigneur, on voit sa grandeur, on ne voit plus nos soucis aussi énormes. Ça nous aide à lever les yeux vers Dieu, un Dieu vivant et vrai. Ça élève nos cœurs et ça nous redonne du courage. Ça nous aide à entendre la voix de Dieu dans notre cœur aussi. C'est comment entendre la voix de Dieu dans notre cœur quand on se dit « Comment je vais faire pour ça, puis ça, puis cette difficulté, puis cette personne, et puis ce travail, et puis ce collègue, et ce patron, et puis la santé, et puis... » C'est pas... On est humain, c'est difficile. Et la louange va nous aider. Va nous aider à entendre la voix de Dieu dans notre cœur. Et au lieu d'écouter... comme j'ai dit tout à l'heure, notre âme ou l'ennemi, c'est quand même beaucoup mieux d'écouter le Seigneur. Donc, la louange nous aide à ça. Et en même temps, j'ai pensé, le temps de louange, je le dis toujours aux enfants à l'école du dimanche, depuis des années, le temps de louange, c'est la seule chose qu'on peut offrir à Dieu et qui n'est pas une partie de ce qu'il nous a donné, comme l'argent, le temps. La louange, c'est vraiment... la seule chose qu'on peut vraiment lui offrir et qu'il ne peut pas prendre lui-même. Il ne le fera pas. La louange, c'est à nous de lui offrir. Il ne va pas nous obliger. Hein. Et ce cadeau, combien de fois on ne le donne pas au Seigneur? Ah, c'est vrai. Et la louange, tous ensemble, dimanche matin, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Les armées de l'Ancien Testament, on a... plusieurs cas d'histoire dans la Bible, je ne les ai pas passés en vue, sinon je ne terminerai jamais. Mais les armées, souvent, mettaient un groupe de louanges à la tête de l'armée. Hein? David a fait ça, et j'ai vu qu'il y a un roi plus tard qui l'a fait. Parce que ça encourageait l'armée. Ça redirigeait leurs yeux vers le Seigneur, qui est l'Éternel des armées, qui est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui va les accompagner et leur donner la victoire. Donc, la louange tous ensemble, ça a quelque chose de très puissant. Et ce n'est pas mathématique, ce n'est pas une voix plus une voix, c'est différent, c'est vraiment l'unité d'un groupe qui chante ensemble. C'est pour ça que je nous encourage pour la louange du dimanche matin. Chantons de tout notre cœur, tous ensemble. Encourageons les enfants à chanter. J'ai vu un enfant ce matin qui chantait, ça m'a tellement réjoui le cœur, avec Marie-France, on le regardait. Oui, les enfants avec nous, chanter, les paroles ne sont pas très compliquées. Et vous savez, dans les difficultés, ces chants-là vont revenir dans votre tête. Quand j'étais petite, j'étais dans une église qui avait des chants très simples, faciles à chanter. Alors maintenant, les chants modernes sont parfois plus difficiles, mais Moïse y fait attention, mais il y a parfois des chants modernes qui sont vachement difficiles à chanter. Mais là, ils étaient très simples, pour toutes les voix, les petits, les grands, les vieux, les gens qui chantent faux, tout est facile. Et souvent dans les difficultés, combien de fois encore aujourd'hui, c'est ces petits chants qui me reviennent, au moment où j'en ai besoin. Donc, il y a ça aussi avec la louange. Quand vous êtes dans une grosse difficulté et que les paroles d'un chant vous reviennent, c'est comme un souffle d'oxygène, hein. Vous savez, quand je prie pour les malades, souvent je pense à ce petit chant « Jésus sauve, Jésus guérit, il peut le faire pour toi aussi. » Ah oui, c'est pas grand-chose, hein, c'est pas compliqué, mais ça parle. Et quand j'étais petite, je chantais tous les chants, parce que, oh là là, il y en avait beaucoup, hein, plus d'une demi-heure, je pense, à chaque fois, et puis j'allais à l'église une, deux, trois, quatre fois par semaine. Et... Oui, ouais, bah, évidemment, mais j'avais l'impression de chanter quand j'étais petite. Non, je chante pas bien. Non, ça va maintenant à peu près, si j'ai quelqu'un qui chante bien à côté de moi, mais bon, je suis pas douée. Ça fait pas partie de mes dons. Mais oui, je chantais de tout mon cœur, et ces paroles-là sont restées gravées. Et aujourd'hui, quand je prie pour les gens, souvent c'est des choses comme ça qui reviennent. Tout est possible, celui qui croit, etc. C'est la loi de la foi. Et donc, ce chant qu'on chante ensemble. Alors, bien sûr, vous allez me dire, bah oui, mais oui, bah comme moi, là, j'ai fait cette semaine, j'ai écouté Don Juan et ça m'a fait un bien fou. Ok, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi la louange en groupe, la louange de l'armée de l'Éternel, la louange du peuple de Dieu. Et je vous encourage, ne croyez pas que ça n'a pas d'importance. Ne croyez pas que c'est juste du chant. Alors, moi, je chante mal, donc je peux parler, mais ça fait rien. On chante ensemble. C'est l'unité d'un peuple qui chante son Dieu. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose de spécial. Alors, ce n'est pas magique, mais il y a quelque chose de spécial. Et on sait que Dieu se réjouit au milieu des louanges de son peuple. Donc, il y a quelque chose. Hein. Donc, ne vous privez pas, même si vous ne chantez pas bien. Ce n'est pas grave, mais chantez tout votre cœur. Parce que tous ensemble, on touche le cœur du Seigneur. Hein. Faisons tous nos efforts pour le louer dans les temps de louange. Pour ne pas avoir la tête ailleurs. Alors ça, c'est compliqué, hein. Pas avoir la tête ailleurs, on est là au culte, et puis d'un seul coup, oh là là, est-ce que j'ai bien fermé le gaz, est-ce que ceci, est-ce que cela, et puis il ne faut pas que je tarde, il ne faut pas que je parle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, faut... et puis hop, ça y est, on a quitté la louange. Alors, y a un effort à faire, hein. On en est tous au même stade, hein, pas croire. Et puis, ne manquons pas de respect au maître, au créateur de l'univers, hein. Alors là, je ne parle pas à ceux qui dirigent la louange parce qu'ils sont obligés d'être dedans. Mais nous, ce n'est pas toujours évident. Alors, profitons de ces temps de louange comme Élisée pour écouter, s'approcher de Dieu et écouter Dieu. Alors maintenant, la parole qu'Élisée reçoit. Alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir terminer aujourd'hui. Non, moi, je pense qu'on va juste essayer de trouver un créneau là. La parole d'Élisée, elle a dû leur sembler franchement bizarre. Non, mais franchement, en général, quand vous avez besoin d'eau, qu'est-ce que Dieu vous dit ? Je vais faire tomber la pluie. Ça, c'est logique. Ou bien, Moïse, frappez le rocher. Ou parle au rocher. Enfin, si on regarde dans l'Ancien Testament, hein, il y a tout un tas d'exemples. Et puis, avec Élie, il s'est mis à prier sur le sommet de la montagne. Et puis, il envoyait son serviteur, regarde, il n'y a pas de nuage. Non, allez, retourne. Pas encore, bah, retourne. Puis à la fin, ah, il y a un petit nuage, bon, c'est bon, ça y est, la pluie va tomber. Et la pluie est tombée. Là, bah, encore une fois, Dieu ne fait rien comme avant. Ah. Alors d'un sens, franchement, pour les jeunes, moi je trouve ça sympa. Quand je dis Dieu, c'est pas le moule à gaufre, hein, c'est, il ne fait pas toujours la même chose. Il y a de la variété dans la vie chrétienne. Il y a des surprises. Il y a des bonnes surprises aussi. Il y a des surprises qui parfois nous semblent difficiles, mais il y a des bonnes surprises. Et là, la parole, moi c'est vraiment la première fois que je l'ai lue, je me souviens, j'étais étudiante à Paris, et je m'efforçais de lire ma Bible, et je m'étais un peu attaquée à l'Ancien Testament. Quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, à l'époque, je crois que c'est ma traduction, c'était des tranchées. What? Des tranchées? Pourquoi? Dans un terrain sec? Ouais, c'était pas évident. Hein. Creuser des fosses, et il insiste, des fosses dans cette vallée. Bon, c'est une vallée sèche. Alors, je vois à peu près, enfin, j'ai regardé à peu près l'endroit où ça devait être. Il y a des collines d'un côté, des collines de l'autre, il y a une sorte de vallée au milieu. Bon, Et puis, j'allais dire, il aggrave son cas. Dieu a de l'humour. Vous ne percevrez pas de vent. En général, c'était des gens de la campagne. Ils savaient très bien quand la pluie allait venir, ça commence par du vent. Ça, vous avez vu hier. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'était impressionnant. Le vent. Ben non, vous ne percevrez pas de vent. Ah bon? Et puis, ça se gâte encore plus. Vous ne verrez pas de pluie. Oh ben alors, on demande à Dieu quelque chose et il nous dit « Creusez des fosses, c'est du boulot, on est fatigué, on a soif. » Et vous verrez ni vent ni pluie. C'est quoi ça? Cette vallée se remplira d'eau et vous boirez. Après tout, c'est ça l'essentiel. Et le comment? Ben, le comment, il est dans les mains de Dieu. Alors ça, c'est un truc qui est difficile pour nous. Hein. Je sais pas, mais... Comment tu vas faire, Seigneur? Cette situation est insoluble. Comment tu vas faire, Seigneur? Ces gens-là ne veulent pas changer. Comment tu vas faire, Seigneur? Ce gouvernement, machin, chose. Peu importe, creusez des fosses. Même s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de pluie, il n'y aura pas de pluie, mais ça se remplira d'eau. Alors moi, j'aurais été à leur place, j'aurais été bien embêtée, parce qu'il y avait quand même trois armées qui attendaient. Hein. Alors ils sont dans une vallée au pied de plusieurs collines, et là, l'action de Dieu va être surprenante. Pourquoi il dit « Vous ne percevrez pas de vent, vous ne verrez pas d'eau » Parce qu'il veut nous montrer qu'il ne faut pas se fier à ce que l'on ressent, à ce que l'on perçoit. Et ça, c'est dur, parce que quand même, on se dirige avec nos yeux, ou bien même les gens qui n'ont pas la vue se dirigent en touchant les choses autour, etc. Et avec Dieu, souvent, il ne faut pas se fier à ce que l'on voit et à ce que l'on perçoit. C'est pas facile, ça, parce que c'est notre vie quotidienne. Le vent annonce la pluie, mais ils ne doivent pas se fier à ça, il n'y en aura pas. Et j'ai pensé à ce chant, ouais, j'étais branchée chant là. Je marche non par la vue, mais par la foi. Oh, oh. À chaque fois que je chante ça, je dis Seigneur, je ne devrais peut-être pas chanter parce que j'ai vraiment du mal à marcher par la foi. Hein, on proclame ça, je marche non par la vue, mais par la foi. Et si Dieu nous dit, bah vas-y. Pourtant, alors c'est logique, hein, mettons-nous à leur place. La pluie, ça vient d'en haut. Bon, c'est elle qui apporte l'eau. Ça avait bien marché avec Élie. Pourquoi pas avec Élisée? Tout ça, c'est logique, puis c'est biblique. Hein. Élie, il a demandé la pluie pour avoir de l'eau. Et là, Dieu va faire autrement. C'est le commun de Dieu qui est dans les mains de l'Éternel. Le fait est là, la vallée se remplira d'eau et vous boirez. Alors, creuser des fosses, je me souviens la première fois que j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais c'est quoi, Seigneur, creuser des fosses? On a un sujet de prière, on demande quelque chose à Dieu. Et puis, c'est quoi creuser des fosses pour nous? C'est-à-dire préparer des réservoirs pour recevoir la bénédiction de Dieu. C'était ça l'idée, hein, que l'eau ne se contente pas de dévaler, parce que c'est ce qui s'est passé, mais qu'elle puisse rester et que les bêtes puissent boire. Creuser des fosses, ça veut dire se préparer. Ça veut dire, je vois rien encore, mais je me prépare. Alors, on va donner des exemples. Hein. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font en ce moment à l'école? Les ados, là, bah, vous creusez des fosses. Vous êtes en train de creuser des fosses. Vous préparez votre avenir. Et c'est pas marrant, parce qu'il fait sec et vous êtes fatigué. Mais vous creusez des fosses. Et puis, vous sentez pas toujours le vent et la pluie. Hein. Parfois, ça prend du temps. Hein. Cette année de secondaire, puis après la fac et les écoles, etc. Ah ben, vous creusez des fosses. Et il faut y aller par la foi. Vous savez qu'un jour, ces fosses-là vont se remplir. Et vous aurez un bon boulot, un bon salaire, une occasion de servir Dieu. Creusez des fosses. Ça ne s'applique pas forcément à tout, mais souvent. Vous savez, il n'y a rien d'absolu dans le domaine humain. Avec Dieu, oui, mais pas avec les hommes. Creuser des fosses, vous voulez une promotion au travail? Bah, peut-être demander au Seigneur quel genre de fosses je dois creuser. Est-ce que c'est les relations? Est-ce que c'est les connaissances? Est-ce que c'est l'efficacité? Est-ce que c'est, que sais-je? Creuser des fosses, préparez-vous à recevoir la bénédiction de Dieu. Faites pas comme si ça allait... Voilà, j'attends un miracle, j'attends. Il y a des domaines, bien sûr, on le sait, où on attend des miracles. Il y a des domaines aussi où il faut creuser des fosses. Et là, leur problème, c'était creuser des fosses. Préparez-vous. Et puis, il faudra y aller uniquement par la foi, parce que par la vue, rien. Alors, j'ai pensé qu'ils auraient pu chanter le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes et d'où me viendra le secours ? Puisque je ne vais pas sentir ni le vent ni la pluie. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel. Et on est souvent surpris du secours de Dieu. Parfois, on l'attend à un endroit, il vient d'un autre. Le secours me vient de Dieu. La semaine prochaine, on regardera un petit peu, justement, le secours de l'Éternel, d'où il vient et comment parfois on est surpris qu'il ne vienne pas comme on l'avait prévu. Et ça aussi, c'est sympa dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de routine. Vous savez, les jeunes, ils n'aiment pas les routines, normalement. Eh bien, il n'y a pas de routine avec la vie chrétienne. C'est fait pour les jeunes. C'est fait pour les jeunes. Il n'y a pas de routine. Des choses différentes tout le temps. Dieu agit tout le temps différemment. Ah, il y a des valeurs éternelles, mais il n'y a pas de routine. Parce qu'il faut une relation tout le temps avec Dieu, du coup, hein, comme il n'y a pas de routine. Dieu, parfois, on ne comprend pas ses voies, parce que ses voies sont au-dessus des nôtres. Donc là, il va intervenir d'une façon extraordinaire. Mais il va accomplir sa promesse, mais à sa manière à lui. Et ça, on le vit dans nos vies, et je pense que j'aurai des témoignages là-dessus, pour vous montrer comment Dieu, le comment, il appartient à Dieu. La bénédiction, il nous l'accorde. Mais le comment, il est surprenant. Et on est souvent dans la vie chrétienne, surpris de la façon dont Dieu va procéder. Et ça, alors là, vu mon âge, je peux vous dire, parfois on est choqué. Seigneur, t'as pas fait comme ça. Et si, il a fait comme ça. Et faisons-lui confiance. Je marche non par la vue, mais par la foi. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous qui te faisons confiance aujourd'hui pour une maladie, pour un problème de travail, d'argent, de famille. Peu importe, Seigneur. On te fait confiance et on veut marcher par la foi et pas par la vue. Parfois, ce qu'on voit est désastreux. Mais Seigneur, nous te prions que tu fortifies notre foi, que tu ouvres nos yeux spirituels. Et puis, même si on ne sait pas comment tu vas faire, mais nous avons confiance que tu tiens tes promesses. Et que tu nous béniras, tu béniras cette église, tu béniras chacun de tes enfants. Le comment est entre tes mains et on te fait confiance parce que tu es le Créateur, tu es un grand Dieu, tu n'es pas un homme pour tromper, tu n'es pas une idole, fruit de l'imagination des hommes. Tu es un Dieu tout-puissant et on te fait confiance, Seigneur, ensemble ce matin, pour cette semaine qui vient, parce que tu tiens le comment dans tes mains et nous savons que tu vas bénir et je pense particulièrement aussi aux jeunes, qui ont ce long parcours de creuser des fosses pour leur avenir, que vraiment, Seigneur, tu les aides. Tu leur donnes le courage, la bonne volonté, et Seigneur, tu leur donnes des encouragements sur la route. Amen.